bonjour tout le monde, on est en direct de la kermesse des Piquesses, c'est sur la place Guérin à Brest et on est sur le plateau radio autour de la sécurité sociale de l'alimentation. Donc on a plein de gens qui font des choses assez différentes autour de la table, qu'on a voulu réunir pour voir qu'est-ce qu'ils ont pensé de ce projet-là. La sécurité sociale de l'alimentation, c'est une idée qui a été initiée par Ingénieurs sans frontières et par Agrista, Agriculture et Souveraineté Alimentaire, et qui est au travail actuellement dans une autre association, Réseau Salariat, et donc c'est Catherine, ici, présente à côté de moi, qui présentera ça tout à l'heure. Mais avant de parler de sécurité sociale de l'alimentation, on voulait déjà faire un tour de table pour que chacun se présente, dise qu'est-ce qu'il fait, parce que il y a à la fois des collectifs, il y a des paysans, enfin voilà. Donc je vais commencer par laisser la parole à Baptiste et Hélène de la ferme de Kermarzin à Argol.
Argol, oui, tout à fait.
C'est ça.
Donc moi c'est Baptiste, la ferme de Kermarzin, comme tu l'as dit, à Argol. Alors qu'est-ce qu'on fait exactement? Alors il y a plein de choses qui sortent de la ferme aujourd'hui. Donc le premier métier, c'est la fabrication de cidre, de jus de pomme et de vinaigre de cidre. Et depuis quelques mois maintenant, la ferme a développé pas mal d'activités en une espèce de, comment on pourrait appeler ça, un conglomérat, une forme protéique qui s'est développée sur la ferme avec des activités qui sont arrivées, comme une brasserie, un fournil, un magasin de producteurs et divers ateliers. Il y a aussi de l'élevage avec des moutons qui vivent sous les arbres, sous les pommiers.
Ah non, c'est bien, c'est complet.
D'accord, bon, voilà. Voilà pour Kermarzin. Parce qu'il y a d'autres points à aborder sur notre activité.
Je me disais, elle est plus souvent connue sous le nom de Maison du Cidre. Et du coup, pourquoi pour vous c'est important aussi de rappeler que c'est une ferme et que ça c'est pas que une Maison du Cidre? Je sais pas comment.
La première chose, je pense qu'on a changé le nom quand les activités sont arrivées sur la ferme, puisque du coup on ne faisait plus que du cidre, on faisait autre chose. Et puis parce que dans ferme, il y a quand même pas loin l'idée de paysan, qui n'est pas forcément dans maison. Ça devrait, mais pas. Et du coup, c'était bien pour nous de rappeler ce que c'est qu'une ferme et qu'est-ce qu'on y fait. Et au moins, d'avoir envie de se poser la question.
Ok. Romain, tu es membre de la coopérative alimentaire Guérin qui vient de se créer il y a quelques mois.
Ouais, c'est tout neuf, hein. Ça date de juin. Donc la coopérative alimentaire Guérin, c'est, on peut résumer ça, on pourrait dire que ça part d'un groupement d'achat, se mettre à plusieurs pour faire des commandes alimentaires. C'est sur le modèle des groupements d'achat services épicerie, gaz. C'est un truc qui est connu sous le nom de gaz, il y en a dans d'autres endroits. Et l'idée, c'est avec des moyens assez modestes en fait, en partant à quelques-uns, quoi, on arrive à faire des commandes assez importantes finalement. Par ce moyen-là, on peut choisir aussi des fournisseurs et puis éviter de passer par des circuits alimentaires classiques, des intermédiaires commerciaux qui pourraient ne pas nous plaire, reprendre un peu la main sur les achats, sur ce truc aussi important qui est la bouffe. Alors c'est vraiment... des aliments qui peuvent se conserver, puisque l'idée c'est donc une fois qu'on a le local, on laisse tout ça là, on fait des permanences et on peut se servir au détail chacun. On a un système d'abonnement, peut-être on reviendra dessus, je sais pas. Hein, c'est...
Bah, tu peux y aller, je pense.
Ouais, le principe c'est que les abonnements, les cotisations, on finance les moyens. Les besoins matériels qui qui sont pas très élevés en fait. Un besoin matériel, c'est simplement avoir un local, avoir un minimum de matos pour stocker les aliments, quoi. Et encore, quand je dis acheter, c'est pas forcément acheter, il y a aussi beaucoup de récup, hein. Enfin, il y a pas de... c'est des seaux alimentaires, des trucs comme ça. Les cotisations servent à ça, et après, le reste, c'est uniquement à prix coûtant de l'argent qu'on met pour qu'il va servir à acheter, à manger, quoi. Donc, le principe, le mécanisme de trésorerie, c'est super intéressant aussi, parce que c'est pas un gros effort pour chacun d'amener, on commence, on amène 100 euros, 150 euros, on pose ça sur le compte, ça permet de faire des achats et on vit de petit à petit notre compte, comme ça. Du coup, l'asso, le groupe a toujours une avance de trésorerie qui permet de relancer des achats et tout ça. Donc ça rationalise un peu ce système de groupement, de quantité, de stock et tout ça, qui sinon on a du mal à faire. Bah, quand on est tout seul, on pourrait pas faire ça, quoi. Voilà. Et puis il y a une dimension sociale aussi qui est évidente, hein. C'est un lieu de rendez-vous. Plutôt que de se retrouver dans un supermarché à la con, on se retrouve entre nous dans un local qu'on s'approprie, qui est sympa. C'est modeste, mais voilà, c'est notre petit rituel. Voilà, donc pour le moment, c'est le vendredi soir. On a une permanence comme ça. Et puis, à ce moment-là, il peut y avoir, évidemment... Donc, on essaye de faire un peu de com', hein, enfin, des petits flyers. Et puis, on essaye de faire venir des gens qui vont renforcer le truc petit à petit, avec leur cotisation aussi, permettre de payer les futurs loyers de notre petit garage, là. Et puis, en grossissant un petit peu, on atteint aussi une taille critique qui permet que ça roule bien, quoi. Donc, on a fait un choix sur les fournisseurs, évidemment. Il y a aussi toute une dimension, je sais pas, on pourrait dire éthique, de choix de fournisseurs. Pour le moment, on a commencé à travailler avec un groupe qui s'appelle Terra Libra, une plateforme à Rennes. Et à Terra Libra, y a vraiment une grosse volonté de choisir les producteurs ou d'autres fournisseurs. Il y a pas mal de produits exotiques, chocolat, thé, café, des fruits séchés, tout ça, qui sont achetés par notamment Andine et Saldac. Qui font un travail vraiment très proche des paysans qui sont producteurs en Amérique du Sud. Et quand je dis très proche, c'est vraiment des démarches qui ont rien à voir avec les standards Max Havelaar ou ce genre de choses qui sont un peu formatées, enfin qui sont très formatées et adaptées à la grande distribution. C'est vraiment des initiatives locales en Amérique du Sud avec des collectifs de producteurs qui gèrent, qui prennent les décisions eux, quoi. Voilà, c'est pas du Max Havelaar. Enfin, il y aurait beaucoup de choses à dire là-dessus, mais on sait que Terra Libra, ils sont très 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 au clair avec ces questions-là, très impliqués. Ils ont commencé avec les paysans sans terre du Brésil. Au départ, ils ont lancé un truc avec importation de cachaça du Brésil fait par des paysans sans terre. Et petit à petit, ils ont fait rentrer des produits comme ça. Mais ils ont vraiment une démarche politique très, très intéressante. Voilà. Donc, en gros, c'est un moyen de reprendre la main sur notre alimentation, tout ce qui est épicerie sèche, de façon un peu intelligente, quoi.
Donc si ça intéresse des gens, ils peuvent vous retrouver le vendredi à 18h.
Alors, c'est le vendredi, voilà, 18-19. Pour le moment, c'est notre créneau, vendredi 18-19. Si vous ne trouvez pas, c'est juste à côté du PL Guérin. Sinon, je sais pas, vous donnez l'adresse exacte. C'est un garage dans la rue.
Boileau.
Rue Boileau, ouais.
Ok. Merci. Gwendal, toi, tu es sur un projet de supermarché coopératif.
C'est ça.
Ticop,
c'est ça. Donc c'est un projet qu'on a commencé à a lancé il y a un an et demi, deux ans bientôt. Ça commence à faire pas mal de temps. Donc, à la base, c'était juste de regarder. On n'a rien inventé, au fait. Hein. C'est comme les gars, c'est regarder un petit peu ce qui se faisait ailleurs. On s'est dit, il n'y a pas ça à Brest. C'est quand même dommage parce que ça nous plaît pas mal comme système. Donc, c'est quelque chose qui commence à se développer pas mal en France. Qui est parti d'un supermarché qui s'appelle La Louve à Paris. Et aujourd'hui, il y a 40-50 projets un peu partout en France qui ont tous leurs spécificités finalement. Parce que c'est pas parce qu'on s'inspire d'un projet qu'on va choisir exactement la même chose derrière. Il y a des rencontres intercoopératives, on se rend compte que chacun a choisi des modèles de gouvernance, les choix des produits. Chacun a vraiment sa manière de faire. Donc là, tout le temps de construction était là-dessus aussi, apprendre à se connaître entre les gens qui voulaient monter le projet, ce que chacun voulait, ce qu'on voulait faire de supermarché. Et donc là, on y arrive progressivement. Donc l'idée générale de ce projet, il y a des similitudes avec ce qu'a pu être un gaz, la coopérative alimentaire de Guérin, mais il y a aussi des différences sur le nombre de références, par exemple, à l'intérieur. C'est-à-dire que nous, il y aura aussi du sec, mais pas uniquement. L'idée, c'est de proposer. C'est pour ça qu'on a gardé le thème supermarché, au fait, quoi. C'est quelque chose contre lequel on veut lutter, mais on trouve bien de se réapproprier un petit peu ce terme-là, avec l'idée de prendre un petit peu les avantages du supermarché, à savoir retrouver un grand choix de produits sur des horaires le plus large possible, mais en proposant l'alternative qu'on se réapproprie vraiment tous ce sujet-là, puisque l'idée c'est de créer. Donc on va créer une entreprise, pour l'instant on est sous forme associative, et le mois prochain on fait notre AG constitutive d'une SA coopérative loi 1947, donc une société anonyme de consommateurs, où tout le monde est actionnaire sous le principe d'une personne, une voix, donc statut coopératif. Donc là, on est en train de décider, ça sera voté en AG, les parts qu'il faudra souscrire pour être propriétaire du magasin. Et tout le monde donne de son temps aussi pour aider au fonctionnement du magasin. Donc ça, c'est pareil sur les heures qu'il faudra donner par mois, ce sera aux alentours de 3 heures par mois pour effectuer les différentes tâches pour le fonctionnement du magasin, que ce soit la caisse, le rayonnage, la gestion des stocks, des commandes surtout, qui est un gros poste.
Et il y a des salariés quand même c'est envisagé qu'il y ait des salariés?
Alors c'est envisagé pour l'instant il n'y en a pas, c'est porté uniquement par des bénévoles, donc le chômage c'est pas mal pour avoir du temps à consacrer à ça. Donc moi c'est ça que j'ai fait. Hein. J'ai fait une rupture conventionnelle avec mon ancien taf pour pouvoir avoir pas mal de temps pour développer ça. Et puis on est un petit groupe de motivés à donner pas mal de temps. Après il y a un deuxième cercle, on va dire, de gens qui prennent un peu moins de temps mais qui donnent quand même. Et puis l'idée après c'est aussi d'avoir des gens qui disent bon moi je peux pas donner du temps ou j'ai pas l'envie de donner du temps sur le montage de projet, mais par contre quand ça sera lancé, moi ça m'intéresse bien votre projet. Donc voilà, uniquement des bénévoles pour l'instant. Ça sera le cas sans doute pour les premiers mois, et puis après on verra en fonction de la force militante de savoir aussi s'il y a sur certains postes ça commence à s'épuiser un petit peu, et on pense qu'arrivé un moment il faudra passer par du salariat. Donc il y aura la fiche de poste qui sera à définir aussi en fonction de ce qu'on a vu qui manquait, qui pêchait un petit peu, la gestion des commandes par exemple. Plus on a de producteurs, plus ça va être compliqué, hein, sans doute passer par des plateformes comme Terra Libra aussi, d'autres plateformes aussi sur les légumes, hein, Poder ou BioBraise qui sont quand même en local mais qui sont des groupements, pour aller au fur et à mesure vers plus en plus de petits producteurs. Mais à chaque nouveau producteur, au fait, du coup c'est une logistique différente à apporter en plus. Donc c'est un peu compliqué. Donc au début, voilà, l'idée c'est de partir sur quelques grossistes un petit peu spécialisés, quelques producteurs, et au fur et à mesure qu'on sera bien rodé, d'avoir de plus en plus de petits producteurs locaux. Voilà.
Ok, merci. Alors Jean-Claude, tu es administrateur au CIVAM. Est-ce que tu peux nous dire ce que c'est et peut-être ce que tu as fait aussi avant?
Qu'est-ce que j'ai fait pour mériter ça?
Ouais.
J'ai poussé des vaches devant moi pendant 40 ans. Je me suis fait chier sur les bottes pendant 40 ans par des vaches. Et puis à un moment, on m'a libéré. Donc je suis en liberté conditionnelle. Ouais. Il faut que je me tienne bien.
Tu es à la retraite.
Oui, je suis à la retraite depuis un certain nombre d'années déjà. Quand même. Et j'étais donc éleveur dans les Monts d'Arrée. Je produisais du lait et de la viande en bovin. Et je faisais très essentiellement de la vente directe. Et j'ai vendu, d'ailleurs, je le dis, on en reparlera sans doute tout à l'heure parce qu'on vous annoncera le programme du week-end prochain, au cas où vous vous ennuyeriez samedi prochain. J'ai participé en 79, donc il y a 40 ans, au premier marché. Alors à l'époque on disait bio, aujourd'hui moi je ne parle plus comme ça parce que ça me fatigue, mais à l'époque on disait encore marché bio de Kerederm, pas celui de Kérinou, hein, parce qu'il y a eu une dégradation dans le service depuis, celui qui était à Kerederm à l'époque, en septembre, 1979, voilà, pour partir comme ça. Donc je suis en retraite, il y a des jeunes surtout qui ont repris après moi, parce que ça c'est très peu, ça n'arrive plus aujourd'hui, ça arrive très rarement que des jeunes reprennent des exploitations, surtout que la mienne était assez conséquente. Donc on a installé du monde, ça c'est aussi, tu peux prendre ta retraite quand tu as installé du monde, sinon tu profite juste de ta rente, c'est pas tout à fait la même chose. L'état d'esprit n'est pas le même. Et donc, c'est à ce titre-là que j'adhérais. Bon, j'étais syndiqué, je vous dis ça parce que c'est pas sans importance d'être syndiqué aujourd'hui. Je pense que c'est pas à vous que je vais apprendre ça. J'étais syndiqué, Confédération Paysanne, aux travailleurs, paysans-travailleurs avant, Confédération Paysanne après quand elle s'est créée. Et puis, j'étais adhérent du réseau CIVAM depuis la fin des années 90. Le réseau CIVAM, c'est un réseau qui rassemble aujourd'hui 12 ou 13 000 exploitations en France, enfin plutôt 13 000 que 12 en France, et qui plonge ses racines dans le programme du CNR à la Libération, là, des gens qui avaient rêvé qu'il y aurait des jours heureux un jour, et qui n'avaient tort qu'en partie d'ailleurs, mais qui avaient quand même tort en partie. Et dans ce programme-là, il y avait des volontés d'émancipation des populations rurales qui étaient assumées par les instituteurs du ministère de l'Agriculture, parce que vous ne savez sans doute pas, mais le ministère de l'Agriculture a de l'enseignement. Il y a des enseignants nombreux en France, tout un service d'enseignement qui ne dépend pas du ministère de l'Enseignement, qui dépend du ministère de l'Agriculture, où nous sommes tous formés. Nous étions jusqu'à présent à peu près tous formés, parce que depuis ce... Il y a des installations de plus en plus nombreuses qui s'en échappent. Voilà. Et ce qu'on disait au CIVAM à l'époque, c'était il faut émanciper les populations, la machine va nous y aider. Les femmes, on va leur donner des machines à traire plutôt que de esquinter les muscles des mains. On va aussi leur apprendre la comptabilité, ça va améliorer le rendement et puis on va donner des tracteurs aux hommes. Enfin, il y avait toute cette réflexion-là qui est née après la guerre, la modernisation de l'agriculture, hein, qui est passée par une machinisation très forte, très poussée, qui n'est pas finie. Actuellement, là, en cours, c'est, je ne sais plus quelle étape, bon, on est arrivé à 15 ou 20 ou 30 étapes, mais enfin, on est dans une forme de numérisation de l'agriculture dont vous n'avez pas la moindre idée. Ne vous l'aurez pas, c'est parce que vous habitez à Place Guérin que vous avez une coopérative qui va vous servir quelques fruits secs, que vous allez échapper à la politique publique agricole qui, elle, est en train de massacrer entièrement le paysage agricole et les paysans qui vont avec, et ne se soucie absolument pas de comment s'alimentent les populations les plus pauvres en France, quoi. Donc ça, c'est pour planter le décor. Et nous, on avait dégagé, en tant que producteurs, on avait dégagé des critères de... On observait que certaines fermes se transmettaient, et d'autres pas, que certaines fermes avaient des résultats économiques un peu plus intéressants que d'autres, dans la même catégorie, quelquefois les mêmes voisins. Donc on a cherché à dégager, dans les années 90, des critères qui permettaient d'observer, de dire pourquoi... Tu avais des risques de te casser la gueule si tu prenais telle voie, comment tu pouvais redresser ce que tu faisais. On a fait ça entre nous, on allait dans les fermes les uns des autres, on regardait nos comptabilités ensemble, ce qui demande une certaine confiance d'ailleurs, ce qui ne se fait pas du jour au lendemain. On observait les consommations de gasoil, les consommations intermédiaires en toutes sortes, l'état des pâtures, l'état du troupeau, la santé du troupeau. Voilà. Tout ça, ça nous a permis de devenir extrêmement pointus et performants dans ce domaine-là. Aujourd'hui, les exploitations laitières du Grand Ouest, si vous les rangez en quintiles de revenus, la quasi-totalité des fermes du CIVAM sont dans le quintile supérieur, dans les 20% supérieurs en revenus, en termes de revenus, parce que donc, on s'est livré à ce travail-là dans les années 90-2000. Il y a un observatoire technico-économique des fermes laitières du Grand Ouest, de notre point de vue, c'est assez passionnant. Sauf que, d'abord, ça concernait un peu moins les gens qui faisaient de la vente directe, parce que nous, on avait... ça nous concernait tout de même, et un peu moins. Et puis, nous, quand on faisait de la vente directe, il y a une question qui nous est posée immédiatement, c'est qu'au bout de 40 ans de vente directe, il y a une partie de la population du pays que je n'ai jamais vue. Tu vois, je vends de la viande, je vends du lait, et puis je vends de la viande et du lait aux gens qui sont en face de moi aujourd'hui, là. Voilà. Et puis un point, c'est tout. J'ai une commande, j'ai la personne au bout du fil, et ça a duré 40 ans. Hein. Je ne suis pas sûr que ça change aujourd'hui. J'ai la personne au bout du fil a sa voix, je sais à peu près quel est son âge, sa catégorie sociale. Je sais que quand j'arrive chez lui, je vais trouver une voiture qui a moins de 5 ans devant la maison, que c'est une maison, pas un appartement, qu'il est abonné à Télérama, au Monde diplomatique éventuellement. Enfin, voilà, l'alimentation aujourd'hui est un marqueur de classe. Et ça, c'est des choses qui ne sont pas supportables pour quelqu'un qui a un minimum de conscience politique. Suivant le revenu que vous avez, suivant le lieu que vous habitez, la classe d'où vous venez, vous mangerez différemment. Et inutile de vous dire que plus vous êtes pauvre, plus vous allez mal manger. Donc, la durabilité d'un système de production, tout d'un coup, elle nous est devenue un peu plus compliquée à défendre quand on s'est rendu compte qu'on ne nourrissait qu'une partie de la population avec. Et on est parti, ça nous a mis plusieurs années, hein, 10 ans. Non, et là, on est en train de clore, et je pense que c'est pour ça qu'on est là aujourd'hui, on est en train de clore une recherche-action qu'on a menée pour le compte du ministère. On a réussi à leur tordre le kiki pour qu'ils nous filent du pognon. Et pendant 4 ans, on a été chercher des critères de durabilité de l'alimentation. Parce que nous, on avait des critères de durabilité de la production. Ça, on savait faire, on sait toujours faire. On peut toujours vous dire, sur une ferme, bah, celui-ci, on sait où trouver un peu à améliorer son système, quoi, que ce soit économique ou environnemental ou sa manière de vivre, enfin, pour lui. Ça. Mais on ne se souciait pas de la santé des gens qui étaient en face de nous. Donc ça, on a cherché là. Et en faisant cette recherche-action, on est revenu à Kerederm. Il n'y a pas de hasard dans la vie, vous vous en doutez bien. Et donc, un des endroits où on a observé, bâti cette recherche et observé les critères de cette alimentation durable de qualité pour tous, eh bien, c'est Kerederm, le quartier de Kerederm. Donc, Fred vous en parlera tout à l'heure, ce qu'ils font. Voilà. Et moi, je voulais juste ajouter, que, puisque tout à l'heure, tu présentais le tour, que les CIVAM, ce n'est pas des gens qui manifestent dans la rue avec leur nom sur les gilets, mais on manifeste tous à titre individuel, parce qu'on est tous très engagés. En fait, c'est une organisation qui est tellement peu connue que tout à l'heure, quand tu as parlé de sécurité sociale de l'alimentation, tu as oublié de dire que c'était nous qui étions les initiateurs de cette idée. Parce que le constat qu'on a fait, c'est que l'alimentation est totalement désocialisée. Il y a une ignorance complète de la part des producteurs, de la façon dont mangent les gens qui sont en face de nous, et l'ignorance au moins égale de ceux qui mangent de la façon dont nous vivons. Il y a un écart très, très, et puis c'est politiquement voulu. Ça fait partie de la modernisation agricole. Chacun s'attache. Chacun son métier, chacun son poste dans les usines, mais aussi chacun s'attache. Tu produis, tu manges. Et entre les deux, il y a des gens qui se soucient de l'environnement, on voit avec le résultat qu'ils ont, et il y a des gens aussi qui se soucient éventuellement de la question sociale. Et là, on fait des travailleurs sociaux, des gardiens de prison, des machins comme ça, parce qu'il faut bien accompagner tout le bordel et la pauvreté que ça produit. Et nous, notre volonté, c'est de socialiser l'alimentation, qui est un bénéfice pour tout le monde, donc socialiser le bénéfice plutôt que de faire ce qu'on fait jusqu'à présent, socialiser les pertes, quoi. Voilà. Et donc, on revendique comme réseau, avec Réseau Salaria, avec surtout Ingénieurs Sans Frontières et Réseau Salaria, mais tout à l'heure, si ça t'amuse, je pourrais te dire, l'idée a germé ici, sous le trottoir à Brest.
Ah ah, ça, je ne savais pas, par contre.
Attends,
du tout. Du coup, bah, Fred, toi, tu travailles au Centre Social de Kerederm.
Exactement.
Et tu vas pouvoir peut-être nous présenter donc Cabas des Champs.
Oui, donc, alors moi, je suis animateur au Centre Social Les Amarres à Kerederm. Et puis depuis, je suis là, on va se dire qu'est-ce qu'un animateur du quartier de Kerederm fait avec des agriculteurs, mais on est devenu très copains au fil des années. Il y a à peu près 4 ans, il y avait une réflexion justement sur l'alimentation de certains habitants qui s'interrogeaient effectivement sur leur mode de consommation qui était essentiellement basé sur du discount, sur du supermarché de proximité, éventuellement Super U, on peut le citer juste à côté, et puis de l'aide alimentaire. C'était essentiellement les manières de fonctionner. Ils se sont posé la question justement de comment ils pouvaient se réadapter un petit peu leur propre mode de consommation, et notamment de produits frais, légumes notamment, parce que même pour eux, c'était dans ces magasins-là, ça pouvait aussi avoir un coût assez certain par rapport à des populations qui sont... On n'est pas Beverly Hills, là-bas. On est quand même, je crois, un des quartiers les plus bas socialement, avec des quand même des critères sociaux assez alarmants, même à certains égards. Et ils avaient réfléchi à une épicerie sociale, parce que sur Brest, ça n'existe pas. D'ailleurs, ça n'existe toujours pas. On a tout le système d'aide alimentaire, mais pas le système de d'épicerie sociale en tant que tel, qui est une organisation assez particulière, et puis qui a ses propres codes de consommation, quoi. On a fait venir des agriculteurs. On a interrogé le CIVAM, d'ailleurs. Jean-Claude était là sur les premières réunions pour se demander est-ce que des agriculteurs pourraient venir livrer des légumes, et puis comment on pourrait avoir un prix intéressant pour le consommateur, rémunérateur aussi, bien évidemment, pour le producteur. Et au fait, c'est, je vais remettre quand même dans l'histoire d'où c'est parti. C'est comme parti de Kerango. C'est le centre social de Kerango qui avait un producteur qui venait livrer des choux-fleurs, des pommes de terre, une fois par mois. C'était fait un petit peu comme ça, entre les bénévoles du centre social. Et ça nous avait un peu intrigués, quoi. Ensuite, on a été accompagné par une association qui s'appelle le Forum de Ploudaniel, qui s'était intéressé aussi à cette question-là, et qui a commencé à... Donc on a réuni quelques agriculteurs, les habitants, et on a discuté comment on pourrait faire, et est-ce qu'il y aurait des agriculteurs qui seraient d'accord. Donc au départ, il y a eu deux agriculteurs, plus aussi des connaissances aussi de gens du quartier, pour un producteur de pommes de terre qui est à Gouenou, par exemple, avec un habitant qui avait travaillé pour lui dans sa jeunesse, qui le connaissait très bien, et ils ont dit « Ok, on va vous livrer, quoi. » Les bénévoles se sont mis ont imaginé justement un système d'organisation, de prise de commande, comment on pourrait faire en sorte que ça se passe bien, qu'on se fasse connaître. Et on est parti comme ça, avec que des légumes, au départ, avec nos deux petits trois producteurs. On avait pommes de terre et deux maraîchers. Et les mêmes d'ailleurs que Kerango. On essaye de... puisqu'il y a plusieurs cabas d'échange, mais j'en reparlerai après. Et puis on a commencé comme ça, quoi, pendant une année à peu près, ou à tester des choses, des organisations, avec sur le cabas d'échange de Kerelerne, en l'occurrence, une dizaine de bénévoles. Et puis petit à petit, on s'est ouvert. C'était pas évident tout de suite de faire prendre conscience aux gens la nécessité d'avoir de la qualité de production. Alors on était regardant quand même, parce qu'on se disait, bon, il faut, si on consomme local, il faut que ça soit bien produit, quoi. Dès le départ, quand même, ça a été cette conscience-là, mais par exemple, l'accès à l'agriculture biologique ne s'est pas fait très naturellement pour eux. Quand on parlait de l'agriculture biologique, c'était pas pour eux. Les prix n'auraient pas été abordables, c'était pas leur façon de consommer, ils comprenaient pas pourquoi. Et finalement, je pense qu'ils se mettaient des barrières. Il fallait pas aller trop vite. Donc, on n'était pas forcément sur des agriculteurs bio au départ. Et petit à petit, ça s'est développé. Et puis, on a fait cette recherche-action aussi. Et puis, on a participé à différents débats. On s'est ouvert aussi. Finalement, les bénévoles, le groupe de bénévoles et habitants de Kerelerne se sont un petit peu. On essaie en tout cas de s'ouvrir aux questions agricoles, d'interconnaissance, de ce milieu-là, d'où venaient ces produits. Et puis au final, ils se rendaient compte que finalement, quand ils allaient acheter leurs carottes là, elles n'avaient pas le même goût. Quand ils achetaient des tomates, déjà ils ne savaient pas qu'il y en avait des vertes, des jaunes, des rouges. Pareil pour les courgettes, il y avait d'énormes découvertes. Et moi, je me suis même étonné, quoi, de voir des personnes de 50 ans qui ne savaient pas qu'une courgette pouvait être jaune, par exemple, quoi. Ou une tomate verte, quoi. Pour eux, s'il y avait la confiture de tomate verte, ils savaient que ça existait. Mais voilà, donc on s'est structuré, on a réfléchi, et puis maintenant on arrive avec une commande une fois par mois de produits divers, puisque on a deux maraîchers, un producteur de pommes de terre historique du début. On a des crêpes aussi, on vend des œufs, des tisanes, de temps en temps on peut faire des opérations sur de la viande aussi, du pâté, on a du pâté d'ailleurs. Et le fait d'avoir rencontré le CIVA aussi nous a permis aussi de développer une nouvelle offre et d'avoir accès aussi aux agriculteurs. Parce qu'en étant en bas de nos tours, on regarde autour de nous, il n'y avait pas beaucoup de tracteurs qui circulaient. Donc, apostrophé d'un agriculteur, on pouvait aller effectivement sur les marchés. Mais souvent sur les marchés aussi, ce sont des personnes qui ont déjà justement leur capacité à écouler leurs produits, quoi. Donc ils n'avaient pas forcément besoin de nous, mais nous on avait besoin d'eux. Et on a trouvé des paysans qui finalement ont accepté d'avoir besoin de nous et puis qui se sont rendus compte que finalement, quand ils arrivent livrés sur le quartier, c'est un nouveau marché qui s'ouvre à eux en fait. C'est un marché qu'ils n'auraient pas pu avoir parce que les personnes des quartiers n'auraient pas été consommées de cette manière-là. Et ils se sont rendus compte que finalement, ils ont ouvert un marché. Et alors, ce n'est pas des quantités extraordinaires, mais pour eux, quand même, ça commence à représenter quelque chose. Parce que nous, on fait une cinquantaine de cabas, parce qu'on appelle ça les cabas, par mois. Et sur les 4 autres quartiers aussi, alors il doit y avoir une trentaine sur Kérourien et sur Kérango. Et puis il y a aussi Bellevue qui fait une vingtaine. Donc on est quand même, mine de rien, par mois, sur les quartiers prioritaires de la politique de la ville, on est quand même à une centaine de clients qui sont livrés et puis qui rémunèrent aussi tous les agriculteurs du coin, quoi. Voilà, je pense qu'on en reparlera après. Je vais laisser la parole aux autres.
Merci.
Et on en reparlera, je rebondis. Ouais, la parole tout à l'heure.
Alors, pour finir le tour de table, il y a Catherine, juste à côté de moi, qui est membre du réseau Salariat et va nous dire un peu ce que c'est déjà le réseau Salariat.
Alors, réseau Salariat, c'est une association donc nationale qui défend et qui veut en tout cas diffuser l'idée du salaire à vie et de la réappropriation des moyens de production, qu'on soit propriétaire de ce qu'on fait quoi, dans notre travail. C'est une association anticapitaliste qui se base sur le travail, enfin qui défend en tout cas la cotisation sociale et qui se base aussi sur le système de la sécurité sociale. En tout cas, on parle là-dedans de du CNR 46, tout ça. Comment on peut se dire que nous, on se sent légitime à gérer ce qu'on vit, quoi. Donc, du coup, là, on part de la sécurité sociale. Et comment on fait quelque chose de commun aussi. Voilà. Alors, on trouve que le travail, c'est hyper important dans nos vies. Donc, on est parti. L'angle de réflexion, c'est vraiment sur le travail. On part aussi... Donc, Bernard Friot fait partie de l'association. Donc, c'est quelqu'un qui a réfléchi à ça toute sa vie, donc bon, il a bien défriché l'affaire. Et puis après, c'est une association qui réfléchit toujours. C'est vraiment quelque chose de collectif. Elle existe depuis, je sais pas, une petite dizaine d'années, je pense.
Je pense, ouais.
Parce que Catherine, donc mon autre voisine, fait aussi partie de Réseau Salariat. Et un peu Jean-Claude aussi, quand même.
Et Thibaut derrière
aussi. Bon, bah, on a pas mal de sympathisants autour de la table, quand même. Alors, comment ça s'organise? Donc, c'est assez compliqué à expliquer, c'est toujours un peu un défi, je trouve. Comment ça s'organise? On dit qu'on est propriétaire donc de notre moyen de production. Pour comprendre, on est un peu en scope, par exemple, ça pourrait être un peu ça. Donc, le truc un peu révolutionnaire dans ce truc-là, c'est que le salaire des travailleurs ne dépend pas de ce qui est produit sur place, c'est géré par une caisse. Il y a des caisses donc au niveau national qui te donnent un salaire tous les mois. Donc tu n'as pas de lien de subordination. Le lien de subordination, il est enlevé, quoi. Ça, c'est quand même assez révolutionnaire. De se dire qu'on est son propre patron, c'est quand même une sacrée avancée. Ce serait en tout cas une sacrée avancée. Et donc, une partie de ce qui est produit, donc ce qui de l'argent qu'on a tous les mois, on le verse à la caisse nationale. Et après, donc tous les mois, la caisse nationale reverse les salaires, quoi. Et après, il y a aussi d'autres caisses. Il y a les caisses d'investissement. L'investissement aussi est hyper important dans cette façon de penser le monde, la société. C'est que les investissements, donc je sais pas... une usine de je sais pas quoi, enfin, ou une boulangerie, ou pas, un magasin de vêtements, je sais pas quoi. En tout cas, y a, les caisses d'investissement financeraient les besoins d'investissement. Et en fait, toutes ces caisses-là seraient gérées par des ce ne serait pas géré par l'État, c'est aussi dissocié de l'État, c'est géré par, bah, par les gens. Par, alors, on n'est pas suffisamment clair, je pense, encore pour savoir comment, est-ce que c'est du tirage au sort, hein. Mais en tout cas, on réfléchit beaucoup dans l'association à où se situent les dominations, les pouvoirs, et comment on essaye de les diminuer. C'est quand même un grand enjeu, c'est de travailler les dominations, quoi. Qu'est-ce que... Je sais pas si j'étais suffisamment placée. Que...
Ça va ?
Ouais. Compris à peu près.
Hein. Ouais. Oui. Ouais. Vous avez à peu près compris ce qu'est l'association Réseau Salariat. Bon, c'est, en tout cas, c'est une association aussi ouais, au niveau national, tu l'as dit, et puis avec des groupes locaux oui. dans différents... certains groupes, c'est dans certaines villes, d'autres, c'est plus une région. À Brest, il y a un petit groupe d'une quinzaine de personnes, on va dire... Voilà, on peut aussi nous rejoindre. On va faire une petite pause musicale avant de reprendre sur qu'est-ce que c'est que cette sécurité sociale de l'alimentation. Et on va pouvoir ben poser des questions aussi les unes les autres. Et il y a Thibaut qui a un micro dans la main et qui, si dans le public aussi il y a des questions, il ne faudra pas hésiter. Est-ce que on est bon ? On fait une petite pause musicale, on revient tout de suite après pour parler de sécurité sociale de l'alimentation.
Pass me by. You can go your